Débat et controverse sur BFM Business. Les experts avec Laure Clausier.
9h07 sur BFM Business. Les experts, on est ensemble et en direct jusqu'à 10h. Aujourd'hui, au menu, on va beaucoup parler d'aviation avec ce drame qui est arrivé en Inde. Est-ce que ça va gâcher l'édition du Bourget? Peut-être en partie parce que, évidemment, le marché indien était une perle pour le développement de l'aviation. On va en parler avec nos invités. Ce salon du Bourget qui commence à partir de lundi, qu'on suivra bien évidemment avec BFM Business. On parlera également guerre commerciale, ça commence à se voir. L'impact notamment dans les comptes, la Banque de France qui nous dit qu'on aura 0,6% de croissance sur l'année. Quel impact des droits de douane, quel impact également sur l'économie britannique. On verra ça ensemble. Et puis il y a un petit parfum de taxe sur les riches avec cette taxe Zuckman qui a été balayée hier au Sénat mais qui avait été votée à l'Assemblée nationale. Ce projet de texte du gouvernement Bayrou sur quelque chose qui ressemble à un ISF, est-ce que c'est une nécessité, est-ce que c'est une mauvaise idée quand on voit à quel point du côté britannique ça a fait partir les milliardaires quand ils ont mis en place un dispositif assez ressemblant. On parlera également de l'or, cette nouvelle passion avec les banques centrales qui entassent de l'or dans leurs réserves. On est au même niveau qu'il y a 60 ans. Pour quelles raisons? Alors qu'à l'époque, on était obligé d'avoir un étalon or. On en parlera avec nos invités, puis on parlera de Trump, évidemment, des wokistes, de Harvard, de tout ça, évidemment, si on a le temps, avec nos experts que je vous présente. Algérie Fredenucci, bonjour, vous êtes la présidente d'Ametra Group. On parlera évidemment aviation ensemble. À vos côtés, Dorothée Rouzet, chef économiste de la Direction Générale du Trésor. Bonjour. Et en face, Roland Gillet, qui était déjà avec nous pendant la matinale, mais qui est resté professeur d'économie financière à Paris 1, Panthéon, Sorbonne et à l'Université Libre de Bruxelles. Je commence avec cette actualité sur l'aviation, avec ce crash terrible qui a coûté la vie à 241 personnes. Un Boeing 787 qui s'est crashé peu après le décollage. On n'a pas les événements encore du drame, on n'a pas les détails, les raisons, mais Anne-Charlotte Fredenucci, on est 3 jours avant le Bourget. Le patron d'Air India venait d'atterrir quand il a appris la nouvelle. Il est reparti dans l'autre sens. Est-ce qu'on peut dire que ça change l'édition, que ça gâche? Évidemment, ça sera dans toutes les têtes.
Évidemment, ça sera dans toutes les têtes, mais il ne faut pas oublier que nous n'avons pour l'instant aucun compte-rendu d'enquête. L'information est certes une information dramatique, mais nous ne savons pas la cause de ce crash. Et donc, il faut relativiser. Le Salon du Bourget est un événement énorme. C'est le plus gros événement aéronautique au monde. La dernière édition 2023 a rassemblé 300 000 visiteurs, dont, je le rappelle, 170 000 visiteurs grand public. C'est-à-dire que c'est également une grande fête populaire, en plus d'être une grande fête de l'industrie aéronautique. Et donc, on attend une édition 2025 record, malgré cet accident qui, pour l'instant, reste un accident dont on ne connaît pas les causes.
Mais c'est vrai que vous avez raison, c'est que le Bourget, c'est intellectuellement assez génial et c'est qu'il y a un côté fierté industrielle. Enfin, c'est un événement qui est vraiment hyper sympa, en fait.
Absolument, on y retrouve des familles. Je vous donne un exemple. Chez Ametra, vous le savez, nous concevons, nous fabriquons des équipements, notamment pour l'aéronautique, la défense, le spatial. Eh bien, le samedi, nous affrétons un bus qui vient de notre usine près d'Angers. Et donc, nous avons nos collaborateurs, leurs enfants, leurs parents, leurs amis. Et ils viennent tous dans le bus et on a rendez-vous à 16h sur notre stand pour un goûter convivial. Et en même temps, ils sont tous ravis d'aller voir voler le Rafale dans lequel Ametra contribue à fabriquer les commandes de vol, des harnais. Nous avons 5 équipements différents qui volent dans le Rafale. Donc, quelle grande fierté pour les collaborateurs d'Ametra de venir à ce salon.
Alors, je reviens au sujet indien, parce qu'il faut dire à quel point le marché indien est aujourd'hui un relais de croissance, s'il y en a besoin, parce qu'il y a déjà beaucoup de commandes, mais pour l'ensemble de l'industrie aéronautique, il voit des perspectives de croissance colossales.
C'est vrai, c'est un relais de croissance pour l'aéronautique civile et pour l'aéronautique militaire, évidemment, que ça soit Airbus, que ça soit Dassault, et toute la supply chain derrière. Ametra, pendant 6 ans, a d'ailleurs fabriqué en Inde pour le compte de ses clients. Donc oui, c'est un grand relais de croissance, mais là encore, ne faisons pas un focus. Certes, c'est un événement dramatique, c'est un événement dont on ne connaît pas les causes, mais ne faisons pas un focus sur un événement. L'Inde va rester le pays de la grande croissance de l'industrie aéronautique dans les années à venir.
Roland Gillet, c'est un Boeing qui est concerné par cet accident. C'était un des appareils qui n'avait jamais eu de problème. Donc, ça fait un sujet encore en plus pour Boeing. Le titre a chuté aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour Airbus, mais en tout cas, pour Boeing, ça a fait encore un événement dramatique supplémentaire.
C'est ça qui est malheureux, c'est d'abord que ce soit un Boeing ou un Airbus, quand un avion tombe, ça tue beaucoup de gens et c'est forcément très malheureux. Mais c'est clair que, comme vous l'avez très bien rappelé, le marché restera avec la croissance qu'il doit avoir, donc on vendra des avions à ceux qui en ont besoin. Ça tombe mal parce que c'est au Salon du Bourget. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Peut-être d'ailleurs que c'est même pas un problème lié à Boeing. Ça peut être une erreur de pilotage, ça peut être un terroriste. Enfin, puisqu'on ne sait pas, quand on ne sait pas, je pense qu'on peut pas dire grand chose. Par contre, c'est vrai que ça tombe de nouveau sur un Boeing à un moment où Boeing a quand même enchaîné des déceptions. Je vous parle même pas de l'épopée 737 Max qui a duré quand même des années avec des tas de procès et ainsi de suite. Mais ça montre aussi quelque chose. C'est qu'au niveau européen, en dehors du match Boeing-Airbus, c'est quand on est unis, on s'est créé un leader mondial comme Airbus qui rivalise sans même parler des accidents de Boeing, très bien avec Boeing, qui pour son arche beaucoup d'argent public aussi pour la défense américaine. Et donc, quand on est unis, on est très fort au niveau européen. Et vous le citiez avec les composants que vous apportez aussi à des avions de chasse en Europe. C'est quand on est unis qu'on voit la force des Européens. Cet événement-ci, c'est un événement malheureux. Mais c'est vrai que sans ou avec, Airbus aujourd'hui est un vrai rival de Boeing. Et je pense qu'on peut en être fier.
Dorothée Rouzet, quand on voit la croissance française qui est relativement morne, quand on voit l'ensemble des carnets de commandes dans l'ensemble de l'industrie qui dit « moi je manque de demande », dans l'aéronautique, clairement, européen, dans le militaire, dans le spatial, là on a des carnets de commandes qui sont pleins, on a une sorte d'exception.
Oui, en tout cas, c'est un secteur qui a eu beaucoup de difficultés. Donc Airbus a eu beaucoup de difficultés après le Covid, avec les problèmes de chaîne d'approvisionnement, avec des problèmes aussi de main d'œuvre. Donc en fait, tous les problèmes d'offre et de capacité à produire. Le problème d'Airbus, effectivement, clairement, c'est pas un problème de demande parce que Airbus est performant et parce que la demande mondiale d'avions est en fait assez dynamique. Alors ça pose des questions par rapport aux objectifs de transition écologique, mais il est vrai que dans le monde, la classe moyenne se développe, les gens ont envie de voyager et ça fait des commandes d'avions dynamiques. Donc les carnets de commandes d'Airbus, ils sont pleins pour les 8 années à venir. Leur souci, c'est de maintenir les cadences de production, qui a été leur souci des dernières années. Alors depuis, ils ont quand même beaucoup rattrapé en 2023-24. Maintenant, ils reviennent à des cadences de production pas tout à fait ce qu'ils avaient avant Covid, mais normal, et en tenant leur planning de livraison, et leur planning de livraison sont en assez forte croissance pour les années à venir. Donc c'est vrai que pour l'industrie européenne, c'est une poche qui va plutôt bien et qui a surmonté ses problèmes d'offres assez largement et dont le sujet est toujours plus du côté du recrutement et maintenant de l'impact de la guerre commerciale, parce qu'il faut aussi voir que voilà, on dit Airbus contre Boeing.
Ouais, bien sûr.
En fait, Airbus a beaucoup de sous-traitants aux États-Unis, Boeing a beaucoup de sous-traitants en Europe, tout ça est très
impliqué. Ça n'arrange personne, hein. Ouais.
Donc si on met des tarifs de 10, 20, 50% sur ces échanges croisés, ça perturbe les deux, c'est pas bon pour Airbus non plus. Donc je dirais, il y a ce sujet-là qui les touche, mais c'est pas un problème de demande d'aujourd'hui.
On va revenir sur le sujet de la guerre commerciale ensuite, mais Anne-Charlotte Frédéric, vos carnets de commandes sont pleins. Vous avez, vous, aujourd'hui un problème de recrutement. C'est ça votre contexte ?
Nos carnets de commandes sont pleins et oui, nous avons un problème de recrutement. Effectivement, nous avons un problème de recrutement que nous traitons en communiquant énormément. Je reviens au Salon du Bourget. Le vendredi sera consacré aux femmes de l'aéronautique.
Donc c'est vendredi de la semaine prochaine. Ouais.
Vendredi de la semaine prochaine. Nous aurons 180 prises de parole de femmes de l'aéronautique et du spatial et j'aurai la chance de représenter
180 femmes.
180 femmes qui vont parler. J'aurai la chance de représenter Ametra dans ce contexte-là et nous allons expliquer pourquoi ce métier est absolument passionnant et pourquoi il y a des passionnés EES dans ce métier de l'aéronautique, du spatial et de la défense, parce que c'est un métier qui est encore considéré à tort comme masculin. Or, il nous faut des jeunes filles talentueuses pour venir dans ce métier. On voit bien que les jeunes filles aujourd'hui s'auto-limitent et c'est bien dommage parce que c'est un métier pour lequel les femmes ont toutes les qualités pour réussir.
Je reviens juste au sujet des commandes. On a pas mal traité ce sujet-là sur BFM Business ces derniers temps avec des sous-traitants parfois qui disent les carnets de commandes sont pleins pour les gros, mais nous les petits, ça ruisselle pas toujours. On attend les commandes, on attend notamment la commande publique qui fait des annonces sur des plans d'investissement, mais nous on voit pas ça directement dans nos bilans. Vous voyez ces commandes publiques être là ou pas chez Ametra ?
Je vous confirme qu'il y a beaucoup de délais entre les annonces en matière de commandes publiques dans l'aéronautique de la défense et le fait que ça ruisselle jusqu'aux ETI et PME. Pour l'instant, chez Ametra, on n'a pas vu augmenter les commandes en matière de défense.
Je reviens à ce sujet dont on parlait ce matin ensemble dans la matinale Roland Gillet sur la vitesse d'exécution de l'Europe. Là, typiquement, on est dans ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on annonce des plans, on annonce des hausses de commandes stratosphériques et puis, voilà.
Oui, mais on a aussi les moyens qu'on a, quoi. Donc, quand on annonce 800 milliards, ou 850 selon le cas, mais disons 800 milliards et qu'on en a 150 qui viendront de l'Europe au niveau d'un emprunt européen, il en reste 650. On a juste donné une autorisation à des pays aussi comme la France, qui sont en déficit excessif, de s'endetter encore plus, mais sur leur propre compte. Donc, clairement, aujourd'hui, et c'est réparti sur 4 ans. Donc, quand on voit 800 milliards divisé par 4, ça fait 200, que je vous dis ce que je vous ai dit il y a 5 minutes, et qu'on voit en plus des acteurs comme l'Allemagne, qui, eux, pour le coup, dans la défense, interviennent beaucoup, puisqu'ils ont décidé d'ouvrir leur bourse aujourd'hui à ce type d'investissement. Eux, ils sont dans un volet où ils sont responsables pour une large part du déficit commercial avec les États-Unis. Et donc, comme ils savent aussi qu'ils vont devoir négocier avec Trump, parce que c'est Trump, pour le moment, qui est le responsable pour les États-Unis, ils sont très heureux de pouvoir dire, alors que ce n'est pas sympa pour tous les autres, sur la partie des 650 milliards, moi, la partie que je vais mettre, je dis déjà que je vais avoir un biais américain. Alors, ils le justifient pour des raisons technologiques, ce qu'ils veulent, mais derrière, ils savent déjà que dans la négociation avec Trump, ce sera un élément très positif, puisque avant, ils ne pouvaient pas faire du militaire, oui. Maintenant, ils peuvent le faire, et ils vont acheter du matériel américain, où ils vont pouvoir être, entre guillemets, un peu mieux écoutés par rapport aux tarifs que viendra à un moment ou un autre sur la table directement entre les États-Unis et l'Allemagne. Donc aujourd'hui, je reviens à ce que je voulais dire avec ça, on a des moyens limités, on ne les joue pas toujours de façon solidaire, et regardez même sur les 150 milliards restants sur lesquels là, il y aura un endettement de la Commission et une répartition, on voit qu'il y a un bien national selon qu'on a déjà des entreprises qui produisent du militaire ou pas. Mmh. Et donc c'est notre logique du un pour tous et chacun pour soi qui revient chaque fois. Si vous regardez dans les tarifs, on met des produits en fonction du déficit commercial qu'on a national avec les États-Unis et des endroits où ça fait mal chez chacun. Et donc, on vient avec un gros panier sur lequel on est prêt à concéder plus ou moins. Mais quand, comme c'est une compétence européenne et de la Commission, les tarifs, on est bien obligé de passer par là, on voit la cacophonie que ça fait. Donc, on a un problème de jouer solidaire parce que c'est encore des biais nationalistes qui font fonctionner le système.
Gérard, vous voyez ça dans l'industrie, toujours le biais national, on n'arrive pas à travailler entre Européens?
Alors, tout le monde voudrait faire l'Airbus de quelque chose.
Ah ouais,
Airbus,
des batteries, du spatial, voilà. De tout, c'est clair.
Mais effectivement, en dehors d'Airbus, il est quand même compliqué d'arriver à faire émerger des géants européens. Et pourtant, on en a besoin. Une souveraineté européenne militaire est absolument nécessaire. On n'aura pas les moyens de développer le meilleur char français, le meilleur avion de chasse allemand, le meilleur... Il faut se européaniser. Alors peut-être, oui, par des équilibres, c'est la tentative qui a été faite avec un blindé européen dont l'Allemagne prendrait le lead et puis un système de combat aérien du futur dont la France prendrait le lead.
Mais c'est Ricardo, quoi, chacun sa spécialité. Et puis...
Oui, mais ça fait des années qu'on parle de cette spécialisation et ça fait des années qu'on a vraiment du mal à accoucher du projet en question, enfin, des projets en question.
On en vient à la guerre commerciale et ses impacts. Dorothée Rouzet, quand on voit donc cette prévision de la Banque de France, 0,6% au lieu de 0,7%, bon, on est un peu sur l'épaisseur du trait, mais enfin, c'est de moins en moins bien. Quand on voit qu'en Grande-Bretagne, on commence à dire que le chômage est plus haut que prévu, que la croissance est moins forte, qu'on a les exportations vers les États-Unis qui sont à un niveau de baisse record, est-ce que c'est directement l'impact de la guerre commerciale, on les voit désormais dans les comptes, ou est-ce que c'est l'économie est en stress, les gens n'investissent plus, est-ce que c'est quasiment l'effet psychologique avant même d'être touché par les droits de douane?
Aujourd'hui, ce qu'on voit, je pense, c'est d'abord l'effet de l'incertitude, et même la Banque de France le dit dans ses prévisions. Donc effectivement, on révise un peu à la baisse. Nous, en avril, on avait une prévision à 0,7. Sur le plan commercial, alors on se demande toujours quel scénario on va mettre, à quel niveau on met les droits de douane quand on fait une prévision. Si on les maintient au niveau actuel, en supposant que la pause va être étendue, si on suppose qu'après le 9 juillet, ça remonte, enfin, il faut bien supposer quelque chose. La vérité, c'est que dans les scénarios plausibles, ça change pas. Enfin, ça va changer à 0,1 point de PIB, peut-être 0,2, c'est beaucoup quand même.
Mais en disant tout ça, c'est de la faute des droits de douane. Si finalement, ça ne change pas grand-chose.
Non, parce qu'en fait, il y a les droits de douane eux-mêmes, et il y a toute l'incertitude autour. Il y a le fait que ça change peut-être plus tous les jours, mais quand même presque toutes les semaines, et que donc, bah, dans ce contexte, les entreprises qui sont très tournées vers l'international, qui sont aussi en général exposées à la Chine, qui sont exposées aux États-Unis, on ne sait pas du tout dans quel environnement on est, bah, en général, on lève le crayon. Donc, il y a cet effet incertitude qui joue sur l'investissement notamment. Il y a l'effet direct sur nos exportations, mais ça, c'est pas pour la France, c'est pas négligeable, et pour certains secteurs, c'est gros. Au niveau macroéconomique, c'est pas si gros parce que d'abord on a d'autres partenaires commerciaux. Les États-Unis, c'est 8% de nos exportations au total. Encore une fois, dans certains secteurs, c'est beaucoup plus, mais c'est plus des problèmes sectoriels. Oui, nous Français, c'est plus des problèmes sectoriels que des problèmes agrégés. Par contre, l'incertitude ambiante, qui est sur les droits de douane, mais qui est aussi sur la situation géopolitique, dont on voit bien que du jour au jour ça change.
Ouais,
que voilà, ce matin
l'expérience ce matin avec l'attaque d'Israël
avec
sur l'Iran.
L'attaque d'Israël sur l'Iran et les prix du pétrole qui rebondissent. Donc on a toute cette incertitude ambiante et aussi incertitude sur des mesures qui sont, je dirais, du ressort de la politique commerciale au sens large pour les États-Unis, mais sur simplement, est-ce que je vais avoir accès aux ressources dont j'ai besoin ? On voit bien que la Chine joue des terres rares et des aimants pour faire levier sur les États-Unis. Elle peut le faire aussi sur leur... Enfin, il y a tout cette instrumentalisation des dépendances commerciales qu'on a tous les uns avec les autres, dont on voit bien que c'est une arme dans la guerre commerciale, qu'on peut être soit pris dans le contre-feu entre les États-Unis et la Chine, soit être pris directement en cas d'escalade avec les États-Unis. Et tout ça, quand même, quand on veut investir, c'est pas des signaux positifs. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit le plus, c'est l'effet de l'incertitude sur la croissance.
Plus qu'en fait le droit de douane lui-même.
Plus que l'effet commercial lui-même. Mais ça reste une
conséquence. Vous inquiétez, Charles Trudelucci. C'est pas un contexte très simple.
Non, le contexte n'est pas simple, mais c'est vrai que dans l'industrie, on est sur du temps long. Donc, je rejoins tout à fait ce que vous disiez. Aujourd'hui, on lève le crayon parce que quelle décision peut-on prendre quand il faut au minimum 12 mois entre le jour où on décide et le jour où on commence à produire dans une nouvelle usine qu'on aurait implantée aux États-Unis ? On ne peut pas aujourd'hui prendre de décision puisque toutes les informations changent au quotidien quasiment.
Roland Gillet, au milieu de tout ça, le discours d'Emmanuel Macron, mais c'est aussi un peu celui d'Ursula von der Leyen, c'est-à-dire l'Europe, elle essaye d'être assez fiable, essayer d'être stable dans ce qu'elle dit, elle respecte l'état de droit, un contrat est un contrat, on essaie d'être un îlot de stabilité en disant, c'est notamment le discours d'Emmanuel Macron à Chousse-France, en disant venez chez nous, au moins on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, quoi.
Oui, mais ça, de toute façon, il faut bien qu'on dise quelque chose, donc on se défend comme on peut, mais on sait quand même que pour le moment, parce que ce sont les États-Unis, parce que c'est le dollar, parce que ils ont inondé aussi la planète de leurs obligations américaines, j'entends, notamment en Chine et au Japon, on a un acteur important qui a une commande qu'on ne comprend pas très bien, je préfère le dire comme ça que d'exagérer dans l'autre sens, mais les États-Unis restent quand même les États-Unis, et donc clairement, on aimerait bien à un moment donné de voir où ils vont atterrir. Alors, c'est peut-être un mauvais jeu de mots aujourd'hui, mais néanmoins, c'est ça qui pose problème. Et qu'est-ce qui se passe toujours dans ces moments-là ? C'est que le consommateur, lui, déjà, le climat de guerre, ben, ça le fragilise. Moi, dans la petite ville où j'habite, ça fait longtemps qu'on me dit, est-ce que tu crois qu'on aura la guerre? Ben, ça veut dire aussi derrière, est-ce que tu crois qu'on doit pas consommer un peu moins, épargner un peu plus? En fait, tout ça n'est pas bon.
Et puis, on rajoute. On peut pas épargner plus, hein. On est là, on est au niveau, quand même, stratosphérique, à 18%.
Je suis bien d'accord avec vous, mais néanmoins, ça crée déjà cette ambiance. Et deuxième chose, il vient se rajouter une incertitude, parce que c'est plus une incertitude qui a, évidemment, des tenants négatifs avec les tarifs, puisque on sait, et les États-Unis aussi, et les chercheurs aux États-Unis encore plus, puisque certains ont eu le prix Nobel pour ça, et ils l'expliquent d'ailleurs tant qu'ils peuvent, en le hurlant maintenant à Trump, en disant ne le continuez pas, c'est d'abord le consommateur américain dans beaucoup de cas qui va payer, deux, ça va créer de l'inflation, trois, ça va appauvrir les Américains, donc le pouvoir d'achat, ça va créer, enfin, soit. Donc, tout ça est, et on voit quand même que Trump, il navigue. Mais il y a une échéance qui va arriver sous peu, c'est il va devoir déposer un budget. C'est raté, pour une bonne part, le fait de dire les tarifs suffiront à faire payer aux autres, sans même tenir compte des effets induits que ça peut avoir sur les États-Unis, parce qu'il voit bien que maintenant, comme vous l'avez très bien rappelé, on peut l'embêter autrement. Les Canadiens, ça a été à un moment donné, je vais vous couper le courant pour une partie de la population par mon hydroélectricité. D'autres, c'est notamment ici en Chine, ben, vous avez besoin de certaines matières, on ne parle pas beaucoup, mais on vous coupe l'approvisionnement. Donc, c'est d'autres sujets qui viennent interférer. Mais il a quand même un problème de budget qu'il doit déposer, où il a organisé d'abord des coupes au niveau, je vais dire, des impôts qu'il voudrait appliquer, pour enrichir les Américains qui ont voté pour lui. Et de l'autre côté, il avait Doge, où le principal intéressé qui aurait dû le faire est parti. Et on peut pas dire qu'il est parti très, que ça a mis longtemps. Et il a en plus des problèmes d'insurrection à différents endroits pour l'immigration. Donc, il a énormément de problèmes. Et je pense, et c'est ça que je voulais ajouter, que c'est des États-Unis que la pression sera la plus forte sur Trump. Et donc, à un moment donné, je pense qu'on verra où il peut aller, étant donné ce qu'il a à tenir dans une échéance courte. Mais tant qu'on ne sait pas, ça peut être atroce, comme beaucoup moins grave, s'il revient, et ça personne ne le sait aujourd'hui, à ce qu'il a déjà fait dans son premier mandat, c'est-à-dire exagérer, changer, revenir. Mais l'incertitude, c'est ça que je voulais dire, crée deux choses. Elle crée une prime de risque que demandent les investisseurs. Un, donc ça crée en chérie le coût du capital, ça c'est pas bon. Deux, comme il y a tellement d'incertitudes maintenant, ils diffèrent même leurs décisions, c'est donc pas bon pour la croissance économique. Et du côté du consommateur, c'est pas bon non plus, parce que lui, il se dit comment est-ce qu'il peut y avoir un type comme ça, et vous mettez ce que vous voulez derrière, à la tête de la plus grande puissance géopolitique dans un climat de guerre. Donc tout ça pousse à un certain ralentissement qui n'est pas dû pour le moment aux tarifs, qui est dû simplement au contexte général.
Vous parlez du consommateur, il y a aussi les marchés obligataires, hein, l'investisseur,
sûr,
on en parlera dans un instant. On marque une pause et on parlera également de la dette américaine et puis on reviendra sur nos questions d'impôts. Il y a un petit parfum de retour de l'ISF. À tout de suite.
Débat et controverses sur BFM Business. Les experts avec Laure Clausier.
On est en direct sur BFM Business jusqu'à 10h pour les experts avec ce matin Charlotte Fredenucci, la présidente d'Ametra, avec Dorothée Rouzet, chef économiste de la Direction Générale du Trésor, et Roland Gillet, professeur d'économie en France et en Belgique. On était sur nos questions américaines et sur la question du budget avec Donald Trump qui a besoin d'argent, avec un budget dont on sait déjà, Dorothée Rouzet, qu'il va creuser les déficits, qu'il va y avoir des émissions de dette de plus en plus importantes. On a eu ces derniers temps des petites alertes quand même sur le marché obligataire américain, avec ce sentiment qu'il y a trop de dettes aujourd'hui sur le marché. Est-ce qu'il peut y avoir est-ce que vous voyez les taux obligataires monter à 10 ans dans ces prochains mois?
Je vais pas faire de prédiction sur les taux, mais c'est vrai que on a eu ces derniers temps plusieurs alertes, alors qui étaient d'abord des alertes des marchés en réaction aux droits de douane et aux perspectives de très fort affaiblissement de la croissance aux États-Unis. Et ensuite, il y a eu la dégradation des États-Unis par Moody's, donc ils ont perdu leur dernier AAA. Et là, je dirais, il y a beaucoup d'attention, évidemment, sur le budget qui est en discussion, qui est un budget qui creuse fortement les déficits, avec des baisses d'impôts assez massives, des coupes dans les dépenses qui, en plus, sont assez récessives, hein, parce que concrètement, on coupe dans les dépenses d'aide sociale, d'aide médicale, enfin, et des perspectives de creusement de déficit, alors qu'ils sont déjà à 6-7% de déficit pour une économie qui allait bien, qui est au plein emploi, avant l'épisode de droits de douane. Donc il y a pas mal d'attention. Aujourd'hui, les États-Unis sont de loin le premier émetteur parmi les pays occidentaux, donc ils sont déjà les plus gros émetteurs sur les marchés obligataires. Avec ce budget-là, ça ne peut que s'accentuer. Au moment où, par ailleurs, on va demander au marché d'absorber sans doute plus de dettes européennes, notamment allemandes. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu cette question de... On va tester la capacité d'absorption des marchés. Les banques centrales continuent doucement le quantitative tightening, c'est-à-dire de ne pas réinvestir dans les actifs qui arrivent à échéance. Donc, voilà, il y a cette question et il y a beaucoup d'attention des marchés obligataires au sujet américain aujourd'hui. C'est vraiment le principal point d'attention, ce qui veut dire que la direction des taux américains, elle est probablement plus à la hausse qu'à la baisse. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour les marchés européens? C'est un peu moins clair que ça ne l'aurait été il y a quelques temps, parce que jusqu'à il y a quelques mois, tout le monde, je dirais tous les taux, augmentaient et baissaient globalement de concert. On a quand même un peu plus de découplage ces derniers mois entre les taux américains et les taux européens. Donc l'histoire américaine peut affecter les taux américains et continuer à créer un peu plus de repli vers les marchés européens comme ce qu'on a observé. Mais bon, globalement, un appel massif au marché des États-Unis qui fait quand même concurrence à notre dette, c'est pas une bonne nouvelle.
Mais est-ce que vous avez peur, par exemple, pour le marché français, pour notre OAT à nous, quand les Allemands vont se mettre à émettre beaucoup de dettes sur les marchés, qu'on ait un aspect concurrentiel qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui avec des investisseurs qui parfois achètent de la dette française parce qu'il n'y a pas assez de dette allemande sur le marché? Est-ce qu'ils pourraient là plutôt choisir cette nouvelle dette allemande que nous?
Aujourd'hui, on n'a pas de raison d'alerte. Quand on voit les adjudications se passent très bien, la demande pour les titres français, elle est là, pas juste parce qu'il n'y a pas assez de titres allemands, mais parce que la dette française, elle est perçue comme étant de bonne qualité, très liquide, avec un profil en termes de maturité, de diversité d'instruments, indexé sur l'inflation, pas indexé sur l'inflation, à différentes maturités, qui répond aux besoins des investisseurs, et l'agence France Trésor gère ça bien, et on voit une demande qui est toujours très, très présente pour notre dette. Ensuite, quand il y a beaucoup, beaucoup plus d'appels au marché, si c'est ce que les États-Unis vont faire, à la fin, c'est plus une question de taux. C'est-à-dire que si tout le monde essaye de placer de la dette en même temps, ça devient un peu plus cher pour tout le monde. C'est plus ça le risque qu'un détournement de la dette française. Honnêtement, on n'a aucun signal dans ce sens-là.
Roland Gillet, sur les marchés obligataires, vous ne craignez pas qu'à un moment donné, il y ait trop de dettes ?
Mais il y a sans doute quelque chose qui, moi, me gêne beaucoup plus. C'est le fait que, pour le moment, malgré tous les événements qui se sont passés, le fait que les banquiers centraux ont été beaucoup présents, on a eu l'impression qu'il y avait toujours un sauveur de dernier sort, et donc les primes de risque sont relativement faibles d'un pays à l'autre, notamment en Europe, et même aux États-Unis. Si on regarde l'incertitude Trump, on ne peut pas dire pour le moment que les rentiers, entre guillemets, ceux qui ont de la dette, quand on enlève l'inflation, soient nécessairement très bien rémunérés. Et donc, on a vu avec le coup là, des tarifs et du Liberation Day, qu'il suffit que ça bouge un petit peu à la marche, puisque c'est jamais que sur un jour, les échanges d'un jour qui peuvent faire bouger très fort les taux d'intérêt, pour que tout le monde se réveille. Et donc, on pourrait avoir à un moment donné même des taux en Europe qui continuent à baisser sur les émetteurs les meilleurs, et la prime de risque augmentée de l'autre côté qui compenserait largement cette baisse de taux directeur de la Banque centrale, si vous voulez, ou du taux de l'Allemagne, parce que la prime de risque augmente. Et ça peut même être régional. Vous avez dans certaines zones, en Espagne, en Italie, en Belgique d'ailleurs, des dettes régionales qui sont assimilées parfois parce qu'il y a une garantie plus ou moins d'État, mais qui sont, elles aussi, parfois tout juste limite soutenable. Moi, je suis même très embarrassé de parler de soutenabilité, parce que pour moi, on parle de solvabilité normalement pour quelqu'un qui émet de la dette. Mais ici, on est tellement arrivé à des situations graves qu'on ne compte plus que sur la soutenabilité, qui est basée essentiellement sur les cons, et parfois vous mettez tribuables derrière, qui vont un jour devoir la rembourser. Et je pèse mes mots, parce qu'à un moment donné, on en imprime tellement qu'on pense toujours qu'il n'y aura jamais de problème, même quand on a des problèmes qui se multiplient. Et je m'explique, depuis la région, il y a parfois même des dettes provinciales, enfin les dettes en tous les cas de tout ce qui est public commencent à être très prégnantes partout, et il y a eu un acteur qui a empêché que cette dette aille, pendant le Covid, et tant mieux d'ailleurs, à certains moments sur les marchés, puisque la Banque Centrale Européenne a acheté tout ce qui a été émis de tous les pays à pratiquement 10 euros près, au fur et à mesure qu'elle était émise, elle était prise sur le bilan de la Banque Centrale. Et comme vous le rappelez, maintenant, ils sont en train d'essayer de faire le détricotage dans l'autre sens. Mais je pense que tout ce qui arrive maintenant rend leur action encore de plus en plus difficile, justement pour éviter d'avoir une remontée des taux d'intérêt qui touche à ce moment-là la soutenabilité déjà toute juste, dans période de taux très bas, sans rémunération souvent même pour ceux qui la détiennent, puisque l'inflation mange une partie, voire la totalité de leur rendement, et c'est ce qui a permis que cette dette soit soutenable. Donc il ne faudrait pas grand-chose si on a un accident quelque part.
Oui, mais la Banque Centrale Européenne referait la même chose.
Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, toute chose n'est pas égale par ailleurs. Avant, vous aviez des ratios dette-PIB qui étaient, je vais dire, plus raisonnables qu'on est aujourd'hui, et aujourd'hui, on voit quand même où les enjeux se trouvent, et donc il faut être prudent, parce que je trouve que pour le moment, cette partie-là est encore très faiblement rémunérée. Et je ne parle pas de la France en particulier, je parle de différents pays en Europe qui sont encore avec des trajectoires qui sont quand même déviantes, et on voit d'ailleurs à quel point on va encore en remettre une couche, puisque pour ces pays-là, au lieu de leur dire qu'ils doivent rentrer dans l'ordre, ils ont le droit, pour la partie des 650 milliards, de déroger parce qu'on en a besoin pour la défense. Donc, il faut être prudent.
Bon, tout ça nous dit qu'on ne va pas avoir des rentrées fiscales grâce à la croissance économique très forte dans les prochains mois. Il va falloir trouver de l'argent. On cherche en France 40 milliards d'euros pour réussir à avoir un déficit, ne serait-ce qu'autour des 5%. On en est là. Donc, du coup, on pense à remettre en place l'ISF. Le gouvernement planche sur une taxe sur les patrimoines de plus de 2 millions d'euros. Hier, c'était la taxe Zuckmann qui était discutée au Sénat. Elle avait été votée à l'Assemblée nationale, a été retoqué au Sénat. Dorothée, est-ce que c'est une nécessité pour les finances françaises ? Est-ce que c'est un sujet de symbole, cette question d'ISF ? Quel est votre point de vue ?
Je pense, c'est une question déjà à manier avec pas mal de précautions. Aujourd'hui, dans le budget 2025, donc pour 2025, il y avait pour un an ce qu'on appelle la contribution différentielle sur les hauts revenus, dont le but était de s'assurer que les très hauts revenus payent au moins 20% d'impôt sur le revenu. ce qui touche assez peu de gens, qui devait rapporter 2 milliards cette année, avec dans l'idée que ce serait remplacé ensuite par quelque chose qui ciblerait plus spécifiquement les pratiques d'optimisation fiscale qui souvent passent par des holdings qui font que certains contribuables tout en haut de l'échelle des revenus sont très peu taxés. Est-ce que c'est un outil de rendement? Pas forcément, parce que si vous voulez en faire la version Zuckman, c'est-à-dire avec une taxation à 2% sur le patrimoine en disant que ça va rapporter beaucoup d'argent, vous y arriverez peut-être la première année, mais la deuxième année, il n'y aura plus personne. Donc, enfin, je veux dire, ce genre d'instrument, on sait qu'on parle de gens qui sont très mobiles. Si vous mettez des taux élevés pour faire du rendement, la taxe disparaît d'elle-même.
Ça marche une fois.
Oui, ça marche une fois et on a pas mal perdu en termes d'attractivité au passage. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut, voilà, si on va vers ce genre d'outils, il faut le faire assez finement avec des taux qui sont pas trop élevés, qui ciblent vraiment là où il y a un sujet en fait de régressivité tout en haut de la distribution, mais tout en sachant qu'on est sur des gens sur des gens mobiles. Donc, voilà, je dirais. À manier avec précaution. Quelle sera la décision finale, j'en sais rien, mais je dirais c'est pas vraiment un outil. On fera pas les 40 milliards avec ça. C'est sans doute plus une question, alors je sais pas s'il faut dire de symbole, mais à partir du moment où on va demander des efforts à tous les Français, de s'assurer que le sentiment est bien là, que l'effort est partagé de manière vaste et y compris tout en haut de l'échelle des revenus.
Anne-Charlotte Fredenucci, faire revenir l'ISF, pour vous, question de symbole, utile, pas utile?
Alors moi, je m'exprimerai d'abord en tant que chef d'entreprise. Tous les ans, Ametra ne distribue pas de quoi payer 2% de la valeur d'Ametra. Donc attention à ces outils qui sont potentiellement mortifères pour les entreprises et les ETI françaises. Il faut être vigilant sur au minimum l'exclusion de l'outil de travail. Attention à taxer les entreprises.
Parce que la taxe Zuckman prévoit, elle, de mettre l'outil professionnel dans le patrimoine des dirigeants et de calculer là-dessus.
C'est ce qui serait dramatique, parce que typiquement, Ametra, tous les ans, réinvestit. Moi, mon père était auvergnat, hein, donc un chou est un chou. On laisse l'argent dans l'entreprise pour que l'entreprise se développe, pour qu'elle puisse continuer à croître, à créer de l'emploi. Si demain, je dois distribuer suffisamment pour payer l'impôt sur le revenu et ensuite, à la fin, payer 2% de la valeur de mon entreprise, c'est la fin de mon modèle économique, clairement.
Alors, la taxe Zuckman, il y a pensé, Gabriel Zuckman, et lui, il dit, c'est pas compliqué, vous donnez des actions à l'État. Comme ça, au moins, vous payez en actions, en fait.
L'État ne va pas devenir actionnaire de toutes les entreprises françaises.
À ce moment-là, c'est l'URSS. Enfin, je ne sais pas, mais...
Il les vendra quand ça sera possible. Si vous avez un problème de liquidité, on a la solution. Non, mais vous dites, à un moment donné, c'est mortifère. C'est ça que vous...
C'est mortifère. L'entrepreneuriat est quand même une aventure dans laquelle on prend des risques. Moi, je me souviens, quand j'ai repris le groupe familial, on a dû faire plan social, procédure de sauvegarde. L'appartement de mes parents était potentiellement saisi par la banque. Enfin, il y avait un risque de saisie si nous n'arrivions pas à redresser l'entreprise et à rembourser. Donc, il ne faut pas oublier que le chef d'entreprise prend des risques sur l'argent qu'il a réussi à mettre de côté au fur et à mesure qu'il a réussi à développer son entreprise et à sortir de l'argent. Donc attention quand même à ces risques qui sont très très importants sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le départ de ces populations qui sont très mobiles. Moi, je suis française, engagée pour la France, je souhaite continuer à payer mes impôts en France, mais dans la mesure où mon entreprise survit. Si rester en France tue mon entreprise, là je n'aurai pas le choix, je serai obligée de déménager.
Roland, à chaque fois ça me terrifie d'entendre des trucs pareils, c'est-à-dire qu'on peut se dire à un moment donné que l'impôt peut tuer les boîtes, tout simplement.
Tout à fait. Et peut décourager aussi, parce que effectivement, le message qu'on voudrait quand même donner aujourd'hui, moi ça me semble tout à fait normal de dire ce que vous avez dit d'abord, et puis deux, il y a plus d'incertitudes, on vient de le dire, c'est dû à personne, en France en particulier, pour le moment, en dehors des problèmes franco-français, il y a le contexte international. Avoir des gens qui sont d'accord sur fonds propres, d'aller mettre de l'argent dans leur entreprise, dans l'outil productif, même acheter des actions quand on est tout petit et qu'on a son épargne et qu'on veut les mettre en actions plutôt que les mettre en obligations. C'est-à-dire vraiment dans du capital à risque où on n'est pas sûr de récupérer la totalité. Dans un univers où c'est déjà plus incertain, on a tendance à demander une prime de risque. Mais il faut du courage pour ça, c'est des audacieux, c'est des gens qui n'ont pas peur de ne pas être garantis si ça tourne mal. toucher ces gens-là maintenant, au moment justement où on a besoin d'eux, sachant qu'on est déjà les champions de l'endettement plutôt que les champions du capital à risque pour les prises de risque, c'est vraiment un signal à l'envers. Aujourd'hui, on devrait plutôt encourager ces gens-là, même des jeunes qui créent leur start-up dans différents pays, mais dans le mien également. Souvent, je disais, quelqu'un qui crée son entreprise, il a peu de fonds propres au début, donc pour le protéger, il faut essayer qu'il les laisse dans l'entreprise, comme vous le disiez. Et moi, j'avais dit à un moment donné, pendant 5 ans, il ne payera pas d'impôt des sociétés, pour autant qui ne se paie pas de dividendes et qui se paie un salaire jusqu'à un certain niveau, dans le but justement, comme on sait que c'est dans les 5 premières années que souvent une entreprise disparaît pour des raisons conjoncturelles qui ne sont pas toujours dues à l'entrepreneur, d'avoir suffisamment de fonds propres qui le protègent si un jour il y a un événement qui se passe. Donc ici, aller mettre des éléments qui poussent des gens audacieux qui mettent à disposition de l'économie française dans leur entreprise des moyens productifs et qui les développent justement ne se rétribuant pas et en faisant grossir leur patrimoine, ce qui permet d'assurer une meilleure pérennité de l'entreprise, je trouve que c'est un message à l'envers dans le contexte actuel.
Peut-être quand même, Dorothée, pour pas trop inquiéter, hein, la version à 2% avec les biens professionnels, vos parts dans vos entreprises, c'est la version Zucman qui a été retoquée au Sénat et qui n'a aucune chance de passer, hein, parce que pour toutes les raisons qu'on a dit, et heureusement. Donc,
mais même je suis d'accord avec vous, mais ça c'est sur l'outil productif. Mais
pour l'instant, nous dit Zucman, mais 5 ans, ça passera.
Mais si vous y allez aussi sur le patrimoine, il faut pas oublier non plus pour le moment, et notamment, je l'ai dit tout à l'heure pour les dettes, notamment les gens qui détiennent des obligations, quand vous avez, par exemple, j'invente sur 3%, 1% qui vous reste quand on a déduit l'inflation. Si on prend bon an, mal an chaque année sur ce patrimoine-là, qui n'est pourtant pas du capital à risque, j'en sais rien, 2%, vous vous appauvrissez chaque année. Hein, donc, on vous prélève un impôt sur quelque chose que vous n'avez pas gagné, puisqu'on le prend sur le capital indépendamment de ce que ça rapporte. C'est un peu ce que vous disiez.
Même l'ISF n'était pas à 2%,
dangereux de faire ce genre de choses.
Voilà, personne ne pense sérieusement à le rétablir à
2%. Non, hein,
c'est la version Zucman, il y a un jeu politique.
La version,
mais
elle n'est pas sur la même assiette, elle n'est pas sur les patrimoines professionnels.
Et d'ailleurs, au niveau de l'ISF en France, vous avez quand même vu que Emmanuel Macron, quand il est arrivé, il a mis l'impôt sur la fortune sur le seul qui n'est pas mobile. De patrimoine, c'est-à-dire l'immobilier. Mais le reste, on sait aujourd'hui en plus que les gens intelligents et les gens qui veulent survivre, vous l'avez très bien dit, vous avez toute envie de continuer à être français, c'est à développer vos projets en France, mais vous n'avez pas envie, à un moment donné, que votre entreprise, que vous avez constituée avec le temps et même votre famille, soit mise à mal alors que vous voulez justement la développer et créer des emplois supplémentaires.
Ma priorité, c'est la pérennité des emplois d'Ametra. Ouais. On est d'accord.
Ouais, donc je trouve que le message ici va à l'envers.
Dans un contexte international compliqué, on disait Israël a frappé l'Iran cette nuit sur des dizaines de cibles militaires et nucléaires. On a là des titres des compagnies aériennes qui chutent. Hein, on est à plus de 5% pour Air France KLM, pour EasyJet, notamment pour Lufthansa, puisqu'évidemment, il y a des zones qui sont totalement fermées à la circulation. Un contexte dans lequel, en dehors même de cette situation spécifique sur l'Iran, sur les marchés financiers, Dorothée Rosé, on achète de l'or. C'est la valeur refuge par excellence. Avant, on disait ça ne rapporte rien. On est ce matin à 3 400 $ l'once. Il est en hausse. Et en plus, dans les réserves des banques centrales, il est de plus en plus prégnant. Aujourd'hui, 20% des réserves des banques centrales, c'est de l'or. Il y a moins de dollars, mais il n'y a pas plus d'euros, il y a plus d'or. C'est ça qu'achètent les banques centrales.
Oui, c'est vrai. Alors, les réserves d'or des banques centrales, ce niveau de 20%, ça fait des décennies qu'on n'avait pas vu ça, hein, effectivement. Après, il y a deux facteurs. Hein. L'un, c'est le facteur dont on parle depuis le début, c'est l'incertitude. L'or, c'est un peu la valeur refuge par excellence. Donc, on se tourne vers l'or dans des périodes de forte incertitude, encore plus avec des turbulences potentielles sur le dollar. Plus on a d'aversion au risque en général, plus les gens se tournent vers l'or et donc le cours de l'or augmente effectivement depuis un certain temps. L'autre facteur qu'on voit, c'est oui, le dollar baisse dans les réserves de change des banques centrales aussi parce que au fond, ça date pas de Trump, le fait que un certain nombre de pays, au premier rang la Chine, mais aussi d'autres pays émergents, veulent rééquilibrer un peu leur je ne vais pas dire dépendance aux États-Unis, mais un peu, c'est-à-dire au moins le poids des États-Unis dans leurs réserves de change.
40% du dollar, mais ça baisse.
Voilà, la Chine, ça fait longtemps que le poids du dollar dans les réserves de change de la Chine baisse. Alors, baisse doucement, mais il baisse. Et donc, il y a un petit peu aussi de rééquilibrage qui est à l'œuvre depuis un certain temps, alors qu'il changerait au fait que le dollar reste de loin la monnaie dominante, mais avec un petit peu de rééquilibrage, un petit peu de diversification qui se voit et qui va en partie vers l'or et en partie vers d'autres devises.
La Chine qui se dit peut-être que le moment où elle sera sous sanction, ce sera plus utile d'avoir de l'or que d'avoir du,
du dollar si ça arrive à un moment avec Taïwan.
Oui, alors après c'est une voilà, c'est un peu un équilibre de la terreur, hein. C'est-à-dire que si la Chine décidait de vendre ses réserves en dollars, ça serait aussi assez douloureux pour les États-Unis, mais ça serait une perte en capital pour la Chine. Donc la dépendance est croisée et je pense que les deux essayent de la réduire en partie.
Oui, il y a juste une chose qu'il faut faire attention sur l'or, c'est qu'on sait quand même une chose quand on le regarde dans le temps, c'est un outil aussi de spéculation et plus qu'un outil de rendement. L'or ne distribue rien, il est juste sur un objet de rareté relative et à un moment donné, vous avez vu notamment après différentes crises, c'est pour ça qu'il faut faire quand même très attention et peut-être le dire aussi, c'est que les gens qui au moment où la crise a été au plus fort, qui ont acheté l'or dans des périodes passées à ce moment-là, notamment quand il y a eu des crashs boursiers et ainsi de suite, ils ont vendu leur patrimoine qu'ils avaient. Ils ont acheté de l'or parce qu'ils n'en pouvaient plus tellement ils étaient mal dans leur peau et ils l'ont acheté au prix le plus élevé. Et derrière, on sait quand le beau temps revient en espérant qu'il va revenir quand même, à ce moment-là, la correction de l'or peut être très grande. Et n'oublions pas quand même que de le stocker est coûteux, de l'acheter, les coûts de transaction sont élevés. Et par-dessus du marché, c'est ce que je dis, en dehors de l'appréciation relative sur sa rareté relative et son importance, sauf quand il est utilisé pour faire des bijoux ou autre, il n'a pas, je vais dire, une raison de rémunérer. Donc c'est une œuvre d'art, mais en grand nombre, qu'on a souvent stocké au début, parce qu'au départ, les monnaies étaient en or, et puis après, on sait comment c'était avec Bretton Woods, et ainsi de suite. Mais donc, il faut faire attention quand même à dire, moi je le verrai plus, et je l'ai souvent dit à mes étudiants, vous vous dites vraiment, ça va mal tourner, il va y avoir la guerre, vous avez un stock d'or réduit, et plutôt, je vais dire, puisque l'unité pour l'or, c'est l'once d'or, vous avez quelques Krugerrand chez vous et vous dites, si un jour ça ne va plus, je pourrais acheter un poulet bon an mal an, si c'était la
avec
guerre. Donc
bien
avoir
sûr.
Ça de côté, oui, maintenant gonfler son stock d'or au-delà du raisonnable, c'est-à-dire de 2 à 3%, ça devient de la spéculation plus qu'autre chose. D'ailleurs, on voit d'ailleurs que la volatilité de l'or, du prix de l'or, j'entends, l'or n'a pas de valeur, il a un prix. Je ne sais pas l'actualiser ses revenus, il n'y en a pas. Donc ici, il faut faire attention.
Et Dorothée, pourquoi l'euro ne profite pas de cette dédollarisation ? On pourrait se dire, c'est notre chance, notre moment. Et en fait, non.
C'est des mouvements qui sont très longs, hein, qui se font pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que l'euro, oui, le poids de l'euro dans les réserves de change, il augmente un petit peu. Le poids de l'euro aussi comme monnaie des transactions, comme monnaie dans laquelle le commerce international est facturé, il augmente un petit peu. Après, c'est des mouvements lents. Et l'euro n'a pas forcément toutes les caractéristiques d'une monnaie internationale. Pour être une monnaie internationale, il faut d'abord être un émetteur sûr et fiable. Je pense qu'on coche pas mal les cases là-dessus, peut-être plus que d'autres aujourd'hui. Il faut aussi émettre suffisamment de liquidités pour le monde. Le dollar, c'est un marché, hein, le marché des treasuries, qui est très profond, très liquide, et qui, comme en plus, ils ont beaucoup de dettes et de déficits extérieurs, ils exportent beaucoup de dollars pour le reste du monde. En Europe, on a 27 émetteurs. On a pas mal de frugaux, donc on en a les émetteurs les plus sûrs émettent assez peu, donc il n'y a pas de l'euro non plus disponible pour tout le monde. Et je suis pas sûre qu'on soit disposé à faire ce qu'il faut pour avoir un budget européen en commun, un actif en commun en émettant beaucoup de dettes en commun pour que ça puisse être l'actif de réserve du monde. Ça pose quand même beaucoup de sujets au niveau européen sur lesquels on n'est pas mûr. Et après, il faudrait réfléchir en termes d'avantages et d'inconvénients. Est-ce qu'on veut jouer ce rôle ? Donc un rééquilibrage à la marge avec un peu plus de rôle de l'euro.
Mais pas un remplacement de.
Et je pense que ça va se poursuivre.
Dollar par l'euro.
Est-ce que l'année prochaine l'euro aura remplacé le dollar ? La réponse est non.
Anne-Charlotte Fredenucci, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a balayé toute l'actualité de la semaine, on se dit qu'on est quand même plus tranquille à commenter qu'à gérer une boîte. Comment vous gérez l'incertitude, les décisions, votre stress personnel au milieu de toute cette incertitude ? Prendre une décision, c'est un enfer.
Oui, mais encore une fois, on est sur du temps long dans l'industrie. Heureusement, on rappelait que Airbus a 8 ans de commandes devant eux. Ils ont 8 ans de commandes devant eux. Donc, chez Ametra, si vous voulez, nous avons 18 mois à peu près de commandes devant nous. Donc, prendre des décisions dans ce contexte-là, c'est quand même plus facile que dans d'autres économies. Je pense au B2C, par exemple, où vous ne savez pas ce que les consommateurs vont vous acheter le lendemain. Nous sommes capables de dire, en septembre, nous allons lancer un recrutement d'une douzaine de collaborateurs parce que dans nos usines, on forme par notre école interne des câbleurs aéronautiques et donc nous allons recruter 12 personnes que nous allons former pendant 3 mois et qui seront à la fin de l'année capables de commencer à fabriquer parce que le ramp-up, l'accélération des cadences, ça c'est une donnée qui est certaine, qui est inscrite dans nos carnets de commandes. Donc heureusement, malgré cette incertitude, chez Ametra, on a quand même une certaine visibilité qui nous permet de décider.
Et comment vous regardez les discussions aujourd'hui européennes? Quand on voit à Vivatech, le président de la République est venu avec le discours « il faut acheter européen, choose Europe », on a eu ce discours dans l'aéronautique 5 mois auparavant, vous dites « il y a enfin une prise de conscience et on se met à regarder un peu ce qu'on fabrique en Europe ». J'avais à votre place, il n'y a pas très longtemps, le patron dans les SMR qui disait aujourd'hui, parfois dans les appels d'offres, on ne regarde même pas ce qu'on fait en Europe, alors qu'on a la même compétence. On achète américain, un point c'est tout, parce que finalement on se dit que c'est mieux, c'est le même sujet dans le cloud. Est-ce que vous avez l'impression que là il y a un changement d'état d'esprit?
Alors c'est vrai que c'est très frustrant quand on voit certains pays européens, la Pologne par exemple, oui, commander des tanks coréens ou des systèmes d'armes américains. Est-ce qu'on voit vraiment une prise de conscience? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que les allers-retours de Trump, les décisions à gauche, à droite, en haut, en bas, enfin les changements de décision en permanence de Trump, limite la confiance que l'Europe, que les pays européens peuvent avoir dans cet allié, peut-on encore l'appeler allié, américain. Donc oui, je sens une prise de conscience européenne. Est-ce qu'elle va se traduire dans des commandes auprès de pays européens? Pour l'instant, on ne le voit pas encore, mais on sent ce frémissement, cette prise de conscience. Si l'administration Trump et ses changements peuvent servir à quelque chose, c'est au moins à cette prise de conscience que nous, Européens, devons prendre en main notre destin en matière de souveraineté et de défense.
Roland Gillet, est-ce qu'on a les mêmes conversations dans les autres pays? Est-ce que les Belges ont les mêmes débats?
Oui, bien sûr, mais surtout à Bruxelles, les Belges aussi, évidemment. Mais oui, je pense que tout le monde en a conscience, mais je répète, quand on est autour de la table, on vise encore nos différences comme étant non pas des possibilités de complémentarité, mais plutôt des moyens d'essayer de se favoriser par rapport au fonctionnement de Bruxelles et de toutes les institutions qui tournent autour. Et les lobbies à Bruxelles n'ont jamais cessé. Hein, je veux dire, à Bruxelles, à la Commission, c'est toujours comme ça. Et ce que vous me disiez tout à l'heure par rapport à aussi même le marché des capitaux, qui serait à un moment donné ce qu'on voudrait avoir, un marché des capitaux unique, il faut aussi rappeler toujours qu'il y a des éléments de poids qui sont à la base de la rationalité. Aujourd'hui, en moyenne, c'est un peu moins vrai peut-être, puisque les chiffres datent un tout petit peu, mais néanmoins, c'est l'ordre de grandeur. La rentabilité sur fonds propres aux États-Unis, donc sur le capital à risque, est de 17%. En moyenne en Europe, 11%. Pour différentes raisons, hein. C'est pas uniquement que le dynamisme des sociétés, c'est la manière dont elles sont imposées. En fait, c'est beaucoup de choses. Même avec un marché des capitaux unis, à un moment donné, il faudra régler ce problème. On en a parlé tout à l'heure. Il faut qu'on voit ce qui est créateur de richesse. On a fait beaucoup dans la dépense sociale, oui, mais sociétale, qui ne sont pas des vrais investissements. Le déficit américain a beaucoup servi à des investissements, eux, carrément, qui permettent d'avoir un payback, au moins de récupérer l'argent qui est mis dedans et donc de recommencer. Nous, on a le même problème chaque année parce qu'on a des dépenses qu'on a accordé à des gens qui les méritaient peut-être à un moment donné, mais qu'on a pérennisé. Et aujourd'hui, on a difficile à dégager de l'argent pour des vrais investissements. Le rapport Draghi est éloquent à ce niveau-là également. Et après, on a des problèmes de financement, parce que, comme vous le voyez, même quand on joue européen, rendez-vous compte quand même à la taille de l'Europe, avoir 150 milliards de dotations européennes sur 800. C'est presque rien, puisque en plus, c'est en 4 ans. Donc, si on veut un jour acheter européen et avoir une logique européenne, il faut au moins se donner les moyens et que chaque pays joue le jeu européen. Vous l'avez rappelé tout à l'heure.
Merci à tous les trois de m'avoir accompagné aujourd'hui dans Les Experts. Lundi, vous retrouvez Nicolas Dose. Est-ce qu'il sera lui aussi au Bourget? Je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, j'y serai à partir de 7h30 avec Jean-Marc Front de Boeing France. On sera aussi avec Eric Trappier d'Assaut Aviation, Fanny Turgis de Turgis et Garrière, Martin Sion d'Ariane Group, Joseph Aschenbarer, le directeur général de l'ESA, entre autres, parce qu'on aura beaucoup d'invités lundi et mardi depuis le Bourget, qui sera une grande fête, évidemment, on le sait. Vous nous l'avez redit, Anne-Charlotte Fredenucci. Je vous dis à lundi, bon week-end.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.